Alors, bonsoir à tous et que Dieu vous bénisse. Voilà, donc ce soir c'est le cours d'Écriture Sainte. Alors je vous dois quelques explications et quelques informations. Au mois d'octobre, je n'ai pas pu faire le cours. Là, je dois pendant 2 mois, décembre et janvier, avoir un traitement de radiothérapie qui m'immobilise dans ma province du lundi au vendredi. C'est des séances de 5 minutes par jour, mais je serai dans l'impossibilité pendant cette période de venir à Paris pour faire ces cours qui reprendront donc au mois de février comme prévu. Néanmoins, pour tous ceux qui valident soit le diplôme, soit le certificat d'écriture sainte, donc ils ont droit évidemment à un certain nombre de cours prévus comme tels sur le programme qui figure sur le site. Donc les cours manquants feront l'objet d'un enregistrement audio et je les remettrai au Père Julian de manière à ce qu'il les mette sur le site. Et de cette façon, le nombre de cours prévus sera intégralement dispensé, soit en direct par ma présence ici, soit par fichier audio. Alors, ne vous déplacez pas, ceux qui ont l'intention de le faire, pour les cours d'écriture sainte au mois de décembre et au mois de janvier, pas plus d'ailleurs que pour les cours d'histoire de l'Église que j'assume cette année. Toute cette période sera donc mise en fichier audio. Alors ce soir, ça correspond à un cours d'introduction au Nouveau Testament et je vais dire un certain nombre de choses que bon nombre d'entre vous qui êtes derrière votre ordinateur ou qui ultérieurement prendront le fichier audio connaissent déjà. Alors quand on parle de Nouveau Testament, le titre même de Nouveau Testament sert à désigner donc une collection de 27 livres qui constituent la deuxième partie de la Bible chrétienne. On peut se poser la question de à quoi correspond ce nom. Commençons par là, si vous le voulez bien. Pourquoi nomme-t-on ainsi cet ensemble constitué des évangiles canoniques, des actes des apôtres, des épîtres de Paul, de Jacques, de Jean, de Pierre, de Jude et le dernier livre, celui de l'Apocalypse de saint Jean le théologien. D'où vient précisément ce nom? Eh bien, ce nom déjà, nous le trouvons dans les paroles du Seigneur lors de la scène du Jeudi Saint, donc le repas de la scène que prend le Seigneur avec ses disciples, donc comporte ce nom même de Nouveau Testament, Kaine Diatheke. Nouveau Testament, ça a à voir avec l'idée d'alliance. Il y a un Nouveau Testament, il y a une nouvelle alliance. On peut mettre en parallèle ces deux termes. Le terme de l'alliance, d'ailleurs, qui est très important dans l'ensemble de la Bible. En hébreu, c'est la bérit, et en grec, de la Septante, c'est diatheke, avec des particularités, nous allons le voir. D'abord, venons sur ce thème de l'Alliance. En Genèse 9, chapitre 9, verset 10, on voit déjà une alliance, celle avec Noé, l'alliance avec Noé. Et il y en a plusieurs tout au long de la première alliance. L'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, qui deviendra Abraham, le père d'une multitude, en Genèse 15, 18, et l'alliance, surtout l'alliance qui est la plus connue, c'est celle du Sinaï, cette fois avec Moïse en Exode 19 et Exode 20, avec les 10 paroles qui scellent cette alliance. Alors, quand on parle de l'alliance dans l'Écriture, dans le Premier Testament, on emploie ce mot de bérite, ce mot hébreu de bérite, et c'est pas n'importe quelle alliance. Ordinairement, par exemple, dans les traités diplomatiques, on va parler d'alliance entre deux parties contractantes, donc qui sont quelque part, qui peuvent être sur un pied d'égalité. Là, ce n'est pas, dans le cadre de l'alliance biblique, un contrat entre des partenaires égaux, mais entre les partenaires, en l'occurrence entre Dieu et les hommes, entre Dieu et son peuple, c'est plutôt une relation de vassalité. Pourquoi ? Parce que c'est le Seigneur qui décide souverainement d'accorder son alliance à Israël, lequel Israël devient sujet d'élection et dépositaire d'une promesse, dans la mesure, bien sûr, où il reste fidèle à ce que Dieu lui demande. Et on sait que, dans sa longue histoire, les épisodes d'infidélité ne manquent pas, infidélité qui est rappelée de manière très fréquente dans la prophétie. Notons également, parce que c'est pas le cœur de mon sujet, mais il est bon de le rappeler, que l'alliance que Dieu conclut avec Moïse, l'alliance sinaïtique, qui est décrite en Exode 24, elle se conclut par un sacrifice où le sang est répandu. Le sacrifice, d'ailleurs, il est lui-même suivi d'un repas sacré. Le texte nous le dit. Moïse, Aaron, Nadar et Aviron, et 70 des anciens d'Israël contemplèrent Dieu, mangèrent et buvèrent. Et ceci se répète, l'alliance, le sang, le sacrifice, le sang répandu, le repas sacré, dans l'alliance d'Isaac et d'Abimélec, en Genèse 26, les versets 26-31, celle de Jacob et de Laban, en Genèse 31, verset 54, et, bien sûr, le repas de la scène du Seigneur avant sa passion est également représenté comme un repas d'alliance. Matthieu 26, 28, 1 Corinthiens 11, 15. Alors, ce terme d'alliance, de bérite, qui revient sans cesse dans la Bible hébraïque, a été rendu par la Septante, la version grecque, par celui de diatheke. Et cette restitution, cette traduction est un choix significatif qui aura une grande importance sur le vocabulaire chrétien. En grec classique, ce mot de diatheke désigne une disposition, un arrangement, une ordonnance, un acte par lequel une personne qui disposant de ses biens, puisque c'est d'un testament qu'il s'agit, teste en faveur d'une autre et fixe un certain nombre de dispositions. Donc, ce terme de diatheke met en relief l'autorité de celui qui teste. La forme juridique du testament, là, n'est pas très importante. Ce qui compte, c'est l'autorité de celui qui teste. Et vous allez voir que ça, c'est signifiant pour la question qui nous occupe. En employant ce terme, la Septante souligne à la fois la souveraineté de Dieu, la souveraineté absolue de Dieu, et en même temps, puisque il donne un Nouveau Testament, c'est un acte par lequel il montre la gratuité de son geste. Hein. Celui qui teste, celui qui fait un testament et qui donne ses biens, eh bien, il les donne gratuitement. Donc, il y a à la fois dans cette manière de procéder, ce qui est souligné, c'est la souveraineté de Dieu, l'autorité de celui qui teste, en l'occurrence c'est le Christ, et la gratuité, la grâce qu'il donne, la gratuité de son acte qui marque sa condescendance et sa miséricorde en faveur des hommes. Donc on retrouve ce terme de diathéké dans les quatre récits de la scène. En Matthieu 26, 28 et en Marc 14, 24, il est employé seul. Et en Luc 22, 20 et en 1 Corinthiens 11, 25, il est employé dans l'expression « kaine diatheke », c'est-à-dire « Nouveau Testament ». Alors ce Nouveau Testament, cette nouvelle alliance, elle est aussi scellée dans le sang du Christ répandu pour nous. Ce sacrifice qui réalise cette communion d'amour sans confusion entre Dieu et les hommes, ce Nouveau Testament, cette nouvelle alliance qui accomplit les prophéties de Jérémie et d'Ézéchiel, qui elle-même annonçait une nouvelle alliance. C'est particulièrement décrit, je ne vais pas citer tout le texte, en Jérémie 31, 33. Et d'ailleurs, lors de la scène, le Christ se réfère à cette nouvelle alliance prophétisée en employant ce terme. Par exemple, en 1 Corinthiens 11, 25 et dans les versets de 31, 34 du chapitre 31 de Jérémie sont cités en entier en Hébreux 8, chapitre 8, les versets 8 à 12. Le Nouveau Testament en mon sang, donc la parole du Seigneur, est nouveau parce que la loi, comme le dit saint Paul, est pédagogue, préparation à la venue du Christ, parce que par son sacrifice d'amour, le Christ donne une disposition en faveur de tous ceux qui ont foi en lui. Et quelle est cette disposition? C'est l'héritage de la vie éternelle. Et c'est donc dans cette même signification que les écrivains inspirés entendront ce mot toutes les fois qu'il s'agit du salut qui est donné gratuitement, qui est légué par la condescendance et la miséricorde du Sauveur. C'est en vertu de cette promesse, de cette nouvelle alliance, de ce Nouveau Testament, donc, que l'Écriture sainte compare aussi le salut à un héritage. On le trouve, ça, dans les Actes 20, 32 et en Éphésiens 1, 11. Je cite, « En lui aussi, nous avons reçu notre part suivant le projet de celui qui mène tout au gré de sa volonté. » Et dans la première épître de Pierre, premier chapitre, verset 4, « Pour un héritage qui ne se peut corrompre, ni souiller, ni flétrir, cet héritage vous est réservé dans les cieux. » Bon, donc il convient donc, à partir de tout ce qui vient d'être dit, d'ouvrir le Nouveau Testament comme des héritiers, selon la parole de saint Paul à Tite. Je cite, c'est en Tite 3, 7. « Cet esprit l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions selon l'espérance héritiers de la vie éternelle. » Et on peut également se référer à Romains 8, 17 et à Jacques 2, 5. Des héritiers qui, en vérité, reçoivent sans mérite de leur part, gratuitement et sans mesure, les dons du Maître de la vie. Alors le contenu des 27 livres que compose ce livre unique auquel l'Église a donné le nom de Nouveau Testament, eh bien, il correspond bien à son titre. Quel est ce contenu ? Au centre de ce contenu, au cœur même de ce livre, au cœur de cette parole, il y a la personne du Dieu homme, la personne du Christ. Parce que le Nouveau Testament contient une parole vivante, une parole de vie éternelle, et en quelque sorte, lorsque nous le lisons, lorsque nous le méditons, nous entrons en relation avec la personne même du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous parle avec une autorité souveraine. On a parlé il y a quelques instants de l'autorité souveraine de celui qui édicte des dispositions. Eh bien, là, c'est bien la même chose. Le Christ nous parle dans le Nouveau Testament avec une autorité souveraine. Parce qu'il est le Verbe éternel de Dieu fait chair. Il a son autorité souveraine parce qu'il est le Fils qui seul connaît le Père, comme il est dit dans l'Évangile de saint Matthieu 11:27. Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Lui qui a aussi dit, dans l'Évangile de saint Jean, « Je suis la vérité, je suis la lumière du monde », celui qui m'a vu a vu mon Père. Et lui qui ajoute que la terre et le ciel passeront, mais ses paroles ne passeront jamais. Le Nouveau Testament, donc, nous introduit dans une relation vivante de foi, parce qu'il nous révèle le visage du Christ, nous dévoile son œuvre de salut en notre faveur, de sorte que tout cela est au cœur de tous les écrits de ce livre, dans les quatre évangiles, comme dans les épîtres, comme dans la révélation des fins dernières, l'Apocalypse. Nous savons aussi par les témoignages qu'il renferme que les disciples, comprenant peu à peu le mystère de la personne du Christ, le reconnurent et le confessèrent. Nous connaissons tous ces paroles, « Tu es le Christ ». Le Christ, c'est celui qui a reçu l'onction, c'est le Messie attendu. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et cette affirmation précédée de la question « À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle ». De sorte que ceux qui lisent avec la foi des disciples, ceux qui font confiance au témoignage apostolique, font la même expérience intime du Christ dans leur cœur que les apôtres, car la parole de vie, bien sûr, si elle s'inscrit dans une histoire, le Christ est venu sur cette terre, a accompli un certain nombre d'actes sur cette terre, mais cette parole du Christ, elle est donnée aussi pour toutes les générations. De telle sorte que nous aussi, nous pouvons faire l'expérience intime de l'union au Christ dans la foi et la confiance au témoignage des apôtres. De sorte que nous aussi, nous sommes guidés par l'Esprit pour entrer dans le mystère du Christ, pour entrer dans une communion d'amour avec lui. Et cette communion d'amour, elle est nécessairement transformante. Elle est un chemin de déification, chemin de déification qui est lui-même un combat intérieur, bien sûr. Alors, on peut certes lire autrement le Nouveau Testament, on peut le lire à la manière, par exemple, de l'exégèse technicienne, repérer les genres littéraires utilisés, chercher à reconstituer l'histoire de la rédaction des évangiles et des épîtres, déterminer qui en sont les auteurs, mettre en œuvre la méthode historico-critique, chercher la forme première des paroles du Christ, ce qui est assurément très problématique. La recherche dans ce domaine est évidemment libre. Elle peut même nous apporter des éléments intéressants pour la compréhension de l'ensemble des textes du Nouveau Testament. C'est une recherche qui peut nous apporter des éléments intéressants, comme d'ailleurs les découvertes de l'archéologie biblique nous en apportent également. Mais cette recherche a sa légitimité pourvu que les hypothèses qu'elle formule restent énoncées comme telles. J'aurai l'occasion d'y revenir. Beaucoup de ces recherches fonctionnent sur la base d'hypothèses et si ces hypothèses sont formulées comme telles, elles sont respectables. Si par contre elles se prétendent scientifiquement attestées, là c'est déjà beaucoup plus discutable. Parce que derrière la prétention scientifique en matière d'exégèse se cachent souvent des présupposés, voire des préjugés idéologiques. Et il faut faire là aussi justice d'une certaine critique rationaliste qui, elle, par contre, est une véritable entreprise de démolition, que Frédéric Godet, un exégète protestant de Neuchâtel au XIXe siècle, dénonçait déjà en ces termes, et je le cite, « On parle de science, mais en réalité la science n'existe que dans les savants, disait-il. Or les savants sont des hommes sujets à maintes préjugés, appartenant à un certain parti théologique et animés d'autres passions encore que le pur amour de la vérité. On connaît l'antipathie d'un grand nombre d'entre eux pour le surnaturel et leur volonté arrêtée d'avance de supprimer à tout prix cet élément de l'histoire de Jésus et des apôtres. Il suffit d'un tel a priori scientifique pour troubler l'impartialité dans les appréciations des faits bibliques et des documents qui le contiennent. » Fin de citation. Alors, il met scientifique entre guillemets, et la volonté arrêtée d'avance de supprimer à tout prix cet élément de l'histoire de Jésus, là ça fait référence à ce qui préoccupait beaucoup la critique rationaliste de l'époque, qui était de mettre à bas les miracles accomplis par le Christ, les dénonçant comme étant totalement contraires aux lois de la nature et de la raison. Mais c'était bien sûr, cette critique rationaliste a pris aussi d'autres visages à des temps plus rapprochés de nous. Cette citation est tirée de l'introduction au Nouveau Testament, et particulièrement ce qui concerne les épîtres de Paul, donc de Frédéric Godet. Alors cette critique rationaliste, dont Rudolf Bultmann fut l'une des plus hautes figures au XXe siècle, si elle a des formes souvent plus subtiles, n'est pas pour autant disparue. Car l'exégèse, ce que j'appelle l'exégèse technicienne de l'écriture, qui saucissonne les textes de l'écriture, obéit encore trop souvent à des préjugés idéologiques qui ne font que masquer l'essentiel. Alors je répéterai simplement, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je répéterai simplement que toutes les méthodes qui permettent en revanche d'entrer dans une intelligence plus profonde du texte, de sa constitution, de son histoire, sont utiles, mais je redirai également avec force que sans l'assistance et l'ouverture de l'intelligence et du cœur de l'homme par le Saint-Esprit, le Nouveau Testament, comme tous les autres livres de l'Écriture sainte d'ailleurs, reste un livre d'histoire et ne conduit pas à ce qui constitue son essence même, c'est-à-dire la rencontre avec le Seigneur, la rencontre avec le Christ. Car sous la matérialité du texte, c'est la parole d'une personne divino-humaine qui nous est adressée. Une personne divino-humaine qui nous parle. Saint Jérôme dit que quand nous ouvrons l'Écriture sainte, c'est Dieu qui nous parle. Et donc, il nous parle de personne à personne, il parle à l'Église, il parle à des personnes qui sont l'Église, toutes ensemble, et il s'agit donc d'une relation vivante. Cette relation vivante, cette parole de vie qui m'est adressée, elle a pour but de me mettre en mouvement. Elle m'est adressée pour me mettre en mouvement, pour me conduire au-delà de la servitude intérieure dans laquelle je suis prisonnier à cause de mes péchés et de mes passions, pour me mener au travers de l'exode intérieur vers le royaume de Dieu, qui est aussi au-dedans de moi, comme le dit l'Évangile. De quelle manière ? Par l'union sans confusion avec Dieu, dans une communion d'amour toujours plus intime avec le Christ, dans la mémoire, dans le souvenir continuel de lui par la prière incessante, comme nous le dit saint Jean Cassien dans ses conférences, où il nous rapporte une expérience spirituelle précieuse entre toutes, celle des pères du désert. Tel est bien le sens des nombreuses questions que le Christ pose dans l'Évangile et dont la portée métahistorique est évidente. Par exemple, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» C'est bien que, par ce questionnement-là, le Christ veut mettre en mouvement ses disciples. Ses disciples vont devoir répondre à la question et ça les met intérieurement en mouvement. Ou la question posée aux possédés des Gadaréniens, « Quel est ton nom ?» Quel est ton nom ? Déjà derrière cette question se profile une thérapie spirituelle. Parce que le nom dont il s'agit, la question que pose le Seigneur, a peut-être quelque chose à voir avec la recherche de sa vraie nature. Quel est ton nom ? Bien sûr, la réponse, ça sera, puisque le Gadarénien est possédé par les esprits démoniaques, mon nom est Légion. Mais ça, ça relève de la nature surajoutée, de la nature déchue. Mais quel est ton nom ? Quel est ton vrai nom ? Celui pour lequel, qui t'a été donné quand tu as été créé, celui qui correspond véritablement à ta vocation. On pourrait multiplier les questions que le Christ pose dans le but de mettre en mouvement son interlocuteur, de le faire bouger, de le conduire de la servitude à la liberté par tout un exode intérieur. Il est donc nécessaire d'acquérir une familiarité avec ces écrits du Nouveau Testament et en premier lieu avec l'Évangile. L'Évangile tétramorphe, quatre portes d'entrée dans le grand mystère du Dieu homme. Et cette familiarité s'acquiert peu à peu, je dirais, dans une lecture amoureuse de la parole. Parce qu'en définitive, entre le Christ et l'âme humaine, c'est une histoire d'amour. S'il n'y a pas cette histoire d'amour, il ne se passe pas grand-chose. Donc, entrer dans cette familiarité par une lecture quotidienne, méditée, où il faut se laisser pénétrer par le glaive de l'esprit. C'est l'un des noms de l'Écriture, d'ailleurs. Se laisser pénétrer par le glaive de l'Esprit au moyen d'un verset, au moyen même d'un mot que l'on va retenir de la péricope quotidienne et qui va faire l'objet d'une méditation intérieure. Et dans l'orthodoxie chrétienne, il faut rappeler que la lecture de l'Écriture est toujours un acte liturgique. Qu'elle soit lue solennellement à la divine liturgie ou seule chez soi, c'est toujours un acte liturgique parce que c'est un acte qui est toujours dans la communion ecclésiale. C'est pour ça que quelque part, je n'ai pas retrouvé la référence exacte, je le cite de mémoire, je vous en demande pardon, mais Saint Jean Chrysostome dit, quand tu vas lire l'Écriture, parfume-toi les mains, quand tu prends le Saint-Livre. Et c'est comme pour souligner qu'on ne prend pas n'importe quelle lecture, mais que on va lire les paroles du roi des cieux. C'est le roi des cieux qui va nous parler à travers les paroles que je vais lire dans l'Évangile. Et donc, c'est une manière aussi de souligner que c'est toujours un acte de la communion ecclésiale, car on ne saurait séparer l'Écriture de l'Église, ni d'ailleurs l'Église de l'Écriture. Le Nouveau Testament, qui renferme les paroles du Seigneur et dont les écrits sont l'œuvre d'auteurs inspirés, est né dans l'Église. Et l'Église est elle-même gardienne de l'Écriture, à laquelle elle ne peut rien ajouter ni rien retrancher. Saint Basile, d'ailleurs, je me souviens d'une parole de Saint Basile qui nous dit que ce que l'on nomme la tradition, c'est-à-dire le repos de la foi reçu des apôtres, a deux versants. Un versant écrit et un versant oral. Sachant bien sûr que la tradition dans son versant oral ne peut jamais être en contradiction avec la tradition dans son versant écrit. Alors, comment s'est formé cet ensemble constitué de 27 écrits ? 4 évangiles, les actes des apôtres, qui est l'œuvre également de Saint Luc, l'évangile de Luc, et Luc est aussi l'auteur des actes des apôtres, 13 épîtres pauliniennes, une épître anonyme, l'épître aux Hébreux. Alors, vous savez qu'il y a eu dans l'Église ancienne discussion là-dessus. Les Églises d'Orient attribuaient l'épître aux Hébreux à saint Paul. Ça a posé problème aux Églises d'Occident. Bon, très tôt, il y a eu une discussion sur l'auteur de l'épître aux Hébreux. Quoi qu'il en soit, si cette épître n'est pas de Paul, elle est très directement liée à lui, parce que à ce moment-là, elle est l'œuvre de d'un de ses disciples très immédiat, très proche de lui. Une épître de Jacques, frère du Seigneur, 2 de saint Pierre, 3 de saint Jean, 1 de saint Jude, et enfin le livre de la Révélation, l'Apocalypse de saint Jean le théologien, du même auteur que le 4e évangile. Je rappelle que cet ensemble de 27 écrits clôt la Bible chrétienne. La Bible chrétienne, elle commence au livre de la Genèse et elle se termine au livre de l'Apocalypse. Alors, ces livres du Nouveau Testament ont pour le plus grand nombre été reçus unanimement par les Églises, bien avant même la clôture du canon néo-testamentaire, dont je parlerai dans une autre leçon. Mais ceci s'est passé très vite. On en a la preuve par des citations des premiers pères, les pères apostoliques, par les tout premiers textes chrétiens qui ne font pas partie du canon. Je pense par exemple à la Didaché, je pense au pasteur d'Hermas, des textes très vénérables dont l'orthodoxie n'est pas du tout en doute et qui sont contemporains de la formation des écrits du Nouveau Testament. Les épîtres envoyés par les pères apostoliques contiennent de très nombreux versets des évangiles tels que nous les connaissons. Et saint Irénée, par exemple, au IIe siècle, donc, cite abondamment les épîtres de saint Paul, cite également les 4 évangiles. Donc, un certain nombre de textes, la majorité des 27 textes que nous connaissons et qui sont rassemblés sous la titulature de Nouveau Testament, sont reçus unanimement, et ce très vite, par les différentes églises. Alors, l'Épître aux Hébreux, je l'ai dit, a posé problème. L'Apocalypse a posé problème aussi. Elle était reconnue en Occident, mais elle a posé problème en Orient, avant évidemment que la question soit résolue de manière conciliaire. Et à cause, en particulier, de ce qu'on a pu voir de millénarisme dans l'Apocalypse, mais la question a été résolue ultérieurement. Alors, dans tout ce processus de discernement, parce qu'il y a eu un long discernement, sous la guidance de l'Esprit-Saint, se sont dégagées deux règles importantes. La première, c'est celle de l'apostolicité des écrits. La seconde, c'est celle de l'unanimité de la tradition. La tradition est unanime quand, par exemple, s'agissant de textes que les églises utilisent dans la lecture liturgique, ça c'est un critère d'unanimité. C'est apostolicité, unanimité. L'unanimité, ça se décline aussi par l'usage liturgique. L'usage liturgique est très important pour reconnaître un texte canonique. Si depuis des temps immémoriaux, ces textes figurent dans les lectionnaires, sont lus dans la lecture publique de l'Église, eh bien, ils acquièrent un statut de canonicité à côté de celui d'apostolicité qui est tout aussi important. Je vais y revenir. L'Église, dans ce domaine, a fait preuve d'un grand discernement. Vous savez que la critique rationaliste a souvent dit que l'Église avait reçu ces textes un peu naïvement et que donc elle n'aurait pas fait preuve d'esprit critique en quelque sorte. Je citerai là encore Frédéric Godet, l'exégète de Neuchâtel dont j'ai fait mention tout à l'heure. Voici ce qu'il dit. On dit et on répète, bon, il vise la critique rationaliste, que l'Église des premiers siècles était dénuée de tout esprit critique. Mais l'histoire ecclésiastique nous a conservé les traces des observations faites dans les cours des 2e, 3e et 4e siècles sur les écrits du Nouveau Testament, ainsi que sur d'autres écrits chrétiens circulant alors dans l'Église. Ces travaux prouvent que le sens critique existait alors dans les communautés chrétiennes et chez leurs conducteurs. Il était même d'autant plus éveillé que c'était le moment où l'on s'efforçait de faire pénétrer dans les églises nombre d'écrits hérétiques publiés sous le nom des apôtres. Évêques et troupeaux étaient sur leur garde, et s'ils ont pu être quelquefois trompés, il est absolument faux de leur attribuer une aveugle crédulité. C'est toujours dans l'opuscule cité précédemment. Quand on connaît un peu la formation du canon du Nouveau Testament et les discussions, voire les controverses auxquelles ça a donné lieu, on voit que l'Église, guidée avec la sûreté de l'Esprit-Saint, a mis vraiment en mouvement un grand discernement pour séparer les textes canoniques de ceux qui ne devaient pas figurer dans le dit canon. Alors quand Godet fait référence au fait qu'ils aient été parfois trompés en parlant des évêques, il y a eu effectivement quelques exemples. Un évêque de je ne sais plus quelle contrée arrive dans une église qui était divisée quant à la lecture de l'évangile de Pierre. L'évangile de Pierre qui est un apocryphe, et donc sans avoir lu ce texte, il a permis donc que on en continue la lecture publique dans les assemblées églises. Et rentré à Antioche, il a lu avec attention ce texte, et là, voyant le contenu doctrinal de ce texte, il en a interdit la lecture publique. Il est revenu sur l'autorisation qu'il avait accordée par une certaine légèreté, parce qu'il l'avait donnée sans avoir lu précédemment ce texte qui contient des enseignements contraires, pour une part, à la tradition des apôtres, la tradition transmise par les apôtres. Alors, si l'on revient maintenant à la formation des écrits du Nouveau Testament, et d'abord à ce qui est au centre de ce corpus, l'Évangile, l'unique Évangile du Christ en quatre évangiles, ceux de Matthieu, Marc, Luc, qu'on appelle les trois synoptiques. Synoptique, ça veut dire sous un seul regard, et ils sont ainsi nommés à cause des nombreuses concordances qu'il y a entre eux. Donc les trois synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et l'évangile de Jean, l'aigle de Patmos, le disciple bien-aimé. D'abord, une remarque. Lévi, Matthieu, donc, Lévi qui, à l'appel du Christ, va le suivre et devient Matthieu, et Jean, le fils de Zébédée, eux font partie des douze apôtres. Marc, lui, est identifié à Jean-Marc, le compagnon de Paul et de Barnabé, puis il est, selon l'expression de Papias de Hierapolis, interprète de Pierre à Rome. Donc c'est en rassemblant tout ce que Pierre lui a rapporté qu'il a écrit son évangile. C'est le premier, donc, compagnon, Marc, compagnon de Pierre à Rome, et Luc, le médecin, le compagnon de saint Paul, qui lui aussi est à plusieurs reprises nommé dans les épîtres de l'apôtre des nations, en Colossiens 4, 14, 2 Timothée 4, 11 et Philémon 24. Alors, chez les pères, d'ailleurs, il y a une divergence sur l'évangile de Marc quant à sa rédaction, la date de sa rédaction. Je reviendrai là-dessus, mais Irénée de Lyon dit qu'il a été composé après la mort de l'apôtre Pierre, et Clément d'Alexandrie dit que c'était avant. Bon, on reviendra là-dessus dans l'autre cours quand on parlera de la chronologie des textes qui composent le Nouveau Testament et leur datation, tout du moins leur datation estimée. Maintenant, on va se centrer sur l'Évangile, sur les quatre Évangiles, et voir comment ils ont été rédigés, au terme de quel processus ils ont été donnés dans ce que nous connaissons aujourd'hui, et comment on peut décrire ce processus. Je propose trois points. La prédication, le premier point, qui est le fondement de tout, bien sûr, c'est la prédication et l'enseignement du Christ lui-même lorsqu'il était sur la terre. Le deuxième point, c'est le kérigme apostolique, donc l'annonce faite par les apôtres et la formation des premiers écrits, des proto-évangiles, si j'ose dire. Et le troisième point, c'est la rédaction finale des évangiles. Alors la première phase, elle a pour centre la prédication et l'enseignement du Christ. Donc là, le matériau est abondant, qu'il s'agisse des actes de sa vie, des signes qu'il accomplit, de sa mort, de sa résurrection, de son ascension glorieuse. Bref, tout ce qui concerne l'accomplissement de sa mission selon le dessein du Père, car il le dit bien dans l'évangile de Jean qu'il est là, qu'il est venu pour accomplir le dessein du Père. Et on remarque que dans tout cet ensemble de matériaux dont nous parlent les quatre évangiles, le dévoilement du mystère de la personne du Christ, il est progressif, parce que il est si grand qu'il ne peut être évidemment donné comme ça en une seule fois, il ne peut se révéler qu'en proportion de ce que les hommes peuvent en recevoir, et donc il est progressif. Il y a derrière cela une pédagogie divine qui est tout à fait admirable d'ailleurs. Comment s'accomplit, donc dans cette première phase, comment s'accomplit l'œuvre du Seigneur ? D'abord, remarquons qu'il choisit des disciples. Au début des évangiles, il y a le choix des disciples. C'est lui qui choisit, c'est pas les disciples qui le choisissent, c'est lui qui les choisit. Contrairement à la pratique courante de bon nombre de rabbis itinérants qu'il y avait en grand nombre dans Israël de ce temps, et les disciples... Les candidats disciples allaient vers les maîtres, voyaient aller vers les maîtres qui leur correspondaient, donc ils cherchaient, et quand ils en avaient trouvé un, ils restaient avec lui. Là, c'est le Seigneur qui va les choisir. Et il les choisit, il faut bien dire, de manière assez impérative. Et ça contient un enseignement. Par exemple, Marc 1, 16, 20 fait état du choix des quatre premiers disciples. Il n'est pas le seul, mais je ne vais pas tous les citer. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. » Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, pardon. Laissant aussitôt leurs filets, ils le suivirent. Avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans leur barque, en train d'arranger leurs filets. Aussitôt il les appela, et laissant dans la barque leur père Zébédée, avec les ouvriers, ils partirent à sa suite. Alors, on remarque déjà que ce récit est très lapidaire, et qu'il montre bien l'initiative de Jésus dans l'appel. Moi, j'ai toujours été frappé par la puissance du regard. Parce qu'il regarde ceux qu'il appelle, et ce regard est si puissant, il est porteur d'une autorité si souveraine que ceux qui font l'objet de cet appel, eh bien, ils obéissent, ils laissent tout et ils suivent le maître. Plus loin encore, en Marc 2, 14, il y a l'appel de Lévi Matthieu. En passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi. » Il se leva et le suivit. Même chose. On trouve dans d'autres récits évangéliques d'appel des apôtres, Matthieu 4, 18, 22, Luc 5, 1, 3, Luc 5, 27, 32, et Luc 6, 12, 16, qui est un récit important, où le Seigneur donne le nom d'apôtre aux douze en les nommant. Vous savez que le Seigneur a des disciples, et parmi ses disciples, il a des apôtres. Je cite le texte, « Simon, auquel il donna le nom de Képhas, Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, qu'on appelait le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. » Donc là, ils reçoivent le nom d'apôtre, Apostolos s'est envoyé, et c'est eux qui vont porter le kérigme, l'annonce du salut, à Israël d'abord, aux gentils ensuite. Donc, l'appel, le choix des disciples, leur appel, l'obéissance de ceux qui sont appelés. Alors, ça nous donne des renseignements sur ce que sont les apôtres. Ce sont, et même plus généralement les disciples, mais en particulier les apôtres, ce sont des hommes qui suivent le Christ depuis le début. Acte 1, 21. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés, dit Saint-Luc dans les Actes, au premier chapitre, durant tout le temps où le Seigneur Jésus a marché à notre tête. À commencer par le baptême de Jean, jusqu'au jour où il nous a été enlevé, c'est-à-dire l'ascension. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. Donc ce récit des actes fait référence aux 11 qui sont réunis et qui vont devoir choisir un 12e apôtre suite au départ de Judas, bien sûr. Donc c'est l'élection de Matthias. En réalité, Matthias est tiré au sort après l'invocation du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que souligne ce texte? Qu'est-ce qui est très important? C'est qu'il qualifie ce qu'est un apôtre envoyé. Il doit être un témoin oculaire, avoir suivi le Christ depuis le début jusqu'à l'ascension. C'est d'ailleurs pourquoi cette qualité d'apôtre en tant que telle n'est pas transmissible. Après les apôtres, il y a des successeurs des apôtres, puisque les apôtres, en fondant des églises, ordonnent des épiscopes qui sont les successeurs des apôtres, et ainsi de génération en génération jusqu'à nous. Mais la qualité d'apôtre, c'est-à-dire celui qui a suivi d'un bout à l'autre le Christ dans sa vie terrestre et celui qui a été témoin oculaire de tout ce qu'il a accompli en vue du salut des hommes, cette qualité n'est pas transmissible comme telle. C'est pourquoi d'ailleurs, dans la formation du canon des écrits du Nouveau Testament, la règle de l'apostolicité sera une garantie, car c'est le témoignage d'un témoin oculaire ou de l'un de ses disciples immédiats qui sera présent et donc comme tel absolument digne de foi. Les disciples ont entendu, écouté l'enseignement du Maître, ils ont été témoins des signes qu'il a accomplis, et donc parmi eux il y a les 12 apôtres. Alors, quand le Christ enseigne, quand il annonce le salut, il enseigne oralement. Nous savons qu'il n'y a aucun écrit de la main du Seigneur Jésus. Le seul écrit dont il est fait référence, ce sont les lettres mystérieuses qu'il trace au sol dans le récit de la femme adultère. Alors la question se pose de savoir s'il y a, ou s'il y a eu plus exactement, des scribes autour de lui qui notaient ses paroles, ce qu'on a appelé les logia, qui est la première formulation, en quelque sorte, puisque les logia ont été ensuite enchâssés dans la narration des témoins oculaires pour constituer l'évangile tel que nous connaissons. Mais les paroles du Seigneur ont-elles été notées par des scribes? Il n'y a aucune preuve de cela. On n'a pas de témoins textuels qui permettent de l'attester. Mais on ne peut pas non plus l'exclure, parce que autour des rabbis itinérants, qui encore une fois, je le rappelle, étaient nombreux en ce temps, il y avait souvent des scribes qui notaient des paroles du maître. Et on ne peut pas l'exclure non plus parce que les Hébreux de ce temps étaient des gens cultivés. Ils savaient lire et écrire, un grand nombre d'entre eux, même parmi les plus humbles. Pourquoi ? À cause du système qu'avaient mis au point les pharisiens pour l'apprentissage de la Torah. Et il y a une éminente savante, Madame Jacqueline Genot-Bismuth, qui a écrit un livre qui s'appelle « Un homme nommé Salut », qui décrit justement le système mis au point par les pharisiens pour enseigner la Torah à la jeunesse, et cet enseignement passait par l'apprentissage de la lecture et de l'Écriture. Donc il n'est pas exclu que parmi les nombreuses personnes qui suivaient le Seigneur, parce qu'il n'y avait pas que les 12 apôtres, il y avait aussi beaucoup d'autres disciples, il y avait les saintes femmes notamment, et il n'est pas exclu que certaines de ces paroles aient été notées. Mais l'enseignement est d'abord basé sur l'oralité. Qu'est-ce qui permet d'affirmer ça? Eh bien, on le repère au fait que plusieurs procédés sont utilisés dans l'Évangile quand le Seigneur enseigne. Il y a des formules qui permettent l'emploi de nombreuses formules, qui permettent de mémoriser. Il y a des procédés qui sont familiers aux Hébreux de ce temps, qui eux aussi aident à la mémorisation des paroles du Maître, à la rumination de ces paroles. Parce que la parole, elle est faite pour atteindre le cœur de l'homme. Elle est faite pour être écoutée, ruminée et mise en pratique, de telle sorte qu'elle devienne intime à nous-mêmes. Il y a bien ce processus-là qui parcourt d'ailleurs toute la Bible, qui n'est pas propre au Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament s'inscrit dans ces pratiques. Donc, l'oralité dont il s'agit là n'est pas synonyme de déperdition. Cette oralité-là, c'est une pratique courante. On mémorise à l'aide de formules, à l'aide de procédés, on mémorise la parole du Maître, et cette mémorisation fait que cette parole nous habite complètement. Un exemple, c'est l'utilisation d'un procédé que l'on appelle en hébreu le machal. Qu'est-ce que c'est que le machal? C'est la parabole, la comparaison, l'analogie. Et qu'est-ce que c'est que cette parabole, cette comparaison, cette analogie? Ça se fait à deux termes. Le premier terme, c'est une réalité sensible, expérimentale, qui est prise dans l'expérience commune des hommes. Donc c'est très parlant quand le Christ enseigne en parabole. Le premier terme de la parabole est emprunté à des réalités quotidiennes, des réalités notamment de la vie pastorale et agraire, qui sont familières à ceux qui entendent la parabole. Et le deuxième terme, c'est une réalité spirituelle, celle-là, qu'il s'agit de découvrir, de dévoiler, de connaître. Mais c'est un dévoilement, c'est une découverte, un dévoilement et une connaissance expérimentale. Il ne suffit pas de le lire pour le découvrir. Ça passe par le fait de l'expérimenter en soi. C'est-à-dire que c'est un procédé à deux termes, un terme empruntant aux réalités sensibles, qui nous conduit à une réalité spirituelle qu'il faut faire nôtre en l'expérimentant, en la vivant nous-mêmes. Et cette méthode-là, elle parcourt les évangiles et elle est familière à l'univers biblique. Pourquoi? Parce que dans l'univers biblique, la création tout entière est l'œuvre de Dieu. Contrairement à la pensée dualiste des anciens Grecs. Donc les réalités sensibles elles-mêmes ne sont pas privées de signification. Au contraire, elles sont porteuses d'une signification, elles sont signifiantes par nature, ces réalités sensibles, et comme telles, elles sont porteuses d'une signification intelligible et spirituelle. Ça, c'est très important à se souvenir. Et donc, ces réalités sensibles qui sont porteuses de signification, elles ont un caractère évidemment très éminemment concret, c'est-à-dire que quand le Seigneur nous parle des réalités spirituelles élevées, Ce vers quoi nous devons aller, il n'en parle pas d'une manière conceptuelle, il en parle d'une manière très très concrète, en partant de ces réalités sensibles, chargées d'une signification élevée, parce qu'elles sont elles-mêmes créatures de Dieu. Donc le Christ enseigne ainsi, en utilisant des réalités sensibles, les images de la vie quotidienne, dans quel but ? Bien pour nous initier au mystère du royaume, en établissant une analogie entre la création présente. La création présente, elle est l'œuvre de la parole créatrice et incréée de Dieu, c'est-à-dire qu'elle est son œuvre, puisqu'il est le Verbe de Dieu par lequel tout vient à l'existence, comme nous dit le prologue de saint Jean. Et cette parole créatrice, elle nous parle également de la création à venir, celle qui est en train de se faire, puisque par l'incarnation, Dieu est au milieu de nous, visiblement d'abord lorsqu'il est sur cette terre, invisiblement et mystiquement après l'ascension, mais il est toujours au milieu de nous. D'ailleurs, nous le disons, le Christ est au milieu de nous dans la divine liturgie. Lui qui nous envoie l'Esprit qui procède du Père. Alors, maintenant, bon, on a vu dans ce quelle était la base de la formation de ces écrits du Nouveau Testament, c'est la prédication, l'enseignement du Christ. Comment cet enseignement s'est propagé? Donc, les disciples qui vont proclamer l'annonce de l'Évangile, le kérigme de l'Évangile, et quels sont, de quelle manière le Seigneur enseigne, selon quelle méthode, avec quel procédé. Le deuxième point concerne donc le kérigme apostolique et la formation des premiers écrits. Kérigme, c'est kérigma, c'est l'annonce. Le fondement du kérigme, c'est l'incarnation de Dieu, la mort salvatrice du Christ et sa glorieuse résurrection. Ça, ce sont les piliers intangibles du kérigme annoncé par les apôtres. Et on le voit d'ailleurs très clairement dans les discours que Pierre prononce dans les Actes des apôtres. Acte 2, 32. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. 3.15, le prince de la vie que vous aviez fait mourir, Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes les témoins. Acte 5, 30, le Dieu de nos pères qui a ressuscité des Jésus que vous aviez exécuté en le pendant au bois. Donc, dans ce texte, l'un des les fondements, la résurrection du Christ, fondement du kérigme est énoncé, et en même temps, l'apôtre Pierre rappelle qu'ils en sont les témoins. Donc, étant les témoins de cette résurrection, annonçant ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu de la part du Maître, ayant reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte, qui les instruit dans la vérité tout entière, leur témoignage est digne de foi. Ils transmettent fidèlement tout ce qu'ils ont reçu et appris, et le témoignage même de leur vie, qui va jusqu'au martyr, en l'atteste. Et si l'un des apôtres avait transmis autre chose, évidemment, parce qu'il y a eu une unanimité dans la transmission. Dans ce que les 12 ont transmis, il y a unanimité. Il y a des manières de transmettre, des accents dans la transmission qui peuvent varier, mais sur les fondations, il y a unanimité. Et c'est ce qui atteste que le témoignage est véridique. Et si un des apôtres avait transmis autre chose, évidemment, les autres auraient rejeté ce qui serait apparu comme une innovation. Hein? Donc, ils transmettent fidèlement ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont appris. Alors, par rapport à ce que j'ai dit sur la qualité d'apôtre, il faut faire une place particulière à Paul. Saül de Tarse, le pharisien fanatique, qui, sur le chemin de Damas, rencontre le Christ, voit le Christ. Le Christ lui parle. « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Bon, Paul n'a pas été témoin depuis le début jusqu'à l'enlèvement au ciel du Christ, dans son ascension, n'a pas été témoin de la vie terrestre du Seigneur. Et pourtant, il est appelé apôtre. Donc, il s'en explique dans l'adresse et la salutation qui ouvre l'épître aux Romains. Il le dit très clairement. Parce que, évidemment, quand il va rencontrer après l'église de Jérusalem, qu'il va parler de ce qu'il enseigne, il y a bien sûr des gens qui vont se poser des questions. Non. Dans l'épître aux Romains, voici ce qu'il dit. Paul esclave, c'est au début de l'épître aux Romains, Paul esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile qu'il avait déjà promis par ses prophètes dans les Écritures saintes concernant son Fils, issu selon la chair de la lignée de David, établi selon l'Esprit Saint, Fils de Dieu avec puissance, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce d'être apôtres, pour conduire à l'obéissance de la foi, à la gloire de son nom, tous les peuples païens, dont vous êtes, vous aussi, que Jésus-Christ a appelé. C'est Romains 1, 1 à 6. Donc, bien sûr, Paul n'a pas été le témoin d'un bout à l'autre de la vie publique du Christ, mais néanmoins, il est choisi, et le Christ lui apparaît. Donc, il a vu le Christ. Et le Christ lui a fait la grâce de l'apostolat en lui donnant la mission d'annoncer le kérygme évangélique aux nations. C'est l'apôtre des nations, Paul. Alors, comment les apôtres ont-ils annoncé le kérygme? Ils l'ont annoncé, non pas de manière identique dans tous les milieux, c'est très intéressant. Vous savez, il faut beaucoup relire les actes des apôtres. C'est un texte qu'on ne lit pas assez souvent. On est beaucoup plus familier des évangiles, des grandes épîtres pauliniennes, mais je l'ai constaté souvent, on n'est pas assez familier des actes. Or, les actes nous donnent des enseignements d'une très grande richesse, notamment celui qui nous occupe. Comment les apôtres annoncent le kérygme? Ils l'annoncent en tenant compte des auditeurs, des auditoires qu'ils ont devant eux. Paul ne prêche pas la résurrection du Christ de la même manière, n'annonce pas le Seigneur mort et ressuscité de la même manière à la synagogue et devant des publics païens. Ça, ce n'est pas une thèse issue de l'exégèse, il suffit de lire attentivement le livre des Actes pour le percevoir. Ainsi, par exemple, en Actes 13, 16-41, quand il prêche à Antioche de Pisidie, là, il a un auditoire juif en face de lui et il annonce le Sauveur d'Israël, sa résurrection d'entre les morts et la justification par la foi. Quand il arrive, il y a un exemple célèbre dont j'avais parlé à l'université d'été d'ailleurs, c'est la prédication du kérygme à Athènes. À Athènes, vous vous souvenez, il a trois types de publics devant lui, Il va d'abord prêcher à la synagogue, mais les actes ne donnent pas le contenu de sa prédication à la synagogue d'Athènes. Ensuite, il prêche sur la place publique, mais le texte passe très vite, si ce n'est qu'il y a une petite notation intéressante, ce qui nous dit « il y avait là des philosophes épicuriens et stoïciens ». Donc, le contenu des paroles de Paul vis-à-vis de ces épicuriens et de ces stoïciens, malheureusement, ne nous est pas rapporté, mais a dû être extrêmement intéressant, et ça pourrait... c'est bien dommage que nous ne les ayons pas, ces paroles, ça pourrait beaucoup nous servir pour l'apologétique aujourd'hui. Mais par contre, nous avons le contenu de la prédication à l'Aréopage, et là, il annonce le Dieu inconnu. Hein, vous savez qu'il y a l'autel au Dieu inconnu dans la ville d'Athènes. Il a en horreur cette ville parce qu'elle est pleine d'autels de païens et de dieux païens, et il passe devant l'autel au Dieu avec la mention au Dieu inconnu et devant l'Aréopage d'Athènes. Il dit bon ben, vous êtes athéniens, vous êtes des hommes religieux, puisque vous avez même un autel au Dieu inconnu, vous vénérez un Dieu inconnu, et moi je suis là pour vous l'annoncer, ce Dieu inconnu. Et il va prêcher le Dieu créateur, le Dieu providence qui maintient et qui pourvoit à la vie des hommes et à sa création. Il va même citer un poète du VIe siècle avant Jésus-Christ qui disait, un poète grec du VIe siècle avant Jésus-Christ qui disait « Vous êtes de la race des dieux » et en disant « Il avait raison, votre poète, de dire ça. » Et il va annoncer la résurrection. Nous savons, c'est la finale de sa prédication à l'Aréopage. Il va annoncer la résurrection, et annonçant la résurrection, là, il va faire l'objet d'un certain mépris de ses auditeurs. Tout le monde va se disperser et dire « Là-dessus, nous t'entendrons une autre fois. » Une manière de dire, ça nous intéresse pas. C'est des histoires qui ne peuvent pas nous intéresser. Donc ça, c'est en acte 13, 16, 34. Alors, je citais ça pour bien montrer que les apôtres apportent leur témoignage de manière différenciée selon les auditoires auxquels ils s'adressent. Et c'est évidemment pour nous, même aujourd'hui, riche d'enseignements. Alors, s'agissant du témoignage des apôtres, on peut se poser la question de savoir s'il y a une distorsion entre la prédication et l'enseignement du Seigneur, tel que les évangiles nous le rapportent, et le témoignage des apôtres et les premiers écrits qui surgissent en cette période. On a, évidemment, nous, on a à notre disposition les évangiles dans leur rédaction définitive, mais on sait par l'exégèse, par l'archéologie, et par des hypothèses qui sont formulées par l'exégèse, des hypothèses intéressantes qui ne doivent pas être rejetées comme telles. Là, ce n'est pas l'exégèse rationaliste et technicienne, c'est des hypothèses qui méritent d'être considérées. On sait qu'il y a plusieurs phases dans la rédaction des évangiles et qu'il y a, à la fin du 1er siècle, donc les évangiles sont dans leur forme telle que nous les connaissons ou à peu près, mais qu'il y a des matériaux qui les précèdent, ce qu'on appelle des proto-évangiles. Alors vous savez que l'exégèse a énoncé la possibilité qu'il y ait, par exemple pour les synoptiques, une source commune qu'on appelle la source Q. Q, ça fait référence à quel en allemand qui signifie source, qui serait en quelque sorte l'ancêtre des évangiles que nous connaissons. Ensuite, il y aurait sur Matthieu et Luc une grande influence de Marc, Bon, il y a des hypothèses qui circulent comme ça, j'en parlerai dans la deuxième leçon. Mais sachez pour ce qui nous occupe ce soir que la question qui se pose, et elle mérite d'être posée, puisque la critique rationaliste répond par l'affirmative, nous devons, nous, répondre à cette question, est-ce qu'il y a une distorsion entre l'enseignement du Christ, la tradition des apôtres, telle qu'elle nous est rapportée par les écrits qui sont à notre disposition, écrits qui surgissent peu de temps après la vie terrestre du Seigneur, et écrits qui eux-mêmes avaient peut-être des ancêtres fragmentaires. Je faisais référence tout à l'heure à la possibilité, l'hypothèse que des scribes aient noté des paroles du Seigneur, aient noté des enseignements du Seigneur. On n'a pas de preuves documentaires, mais ce n'est pas une hypothèse invraisemblable, au contraire, on peut tout à fait la recevoir. Donc il y a tout un matériau préexistant qui va nous conduire à la rédaction définitive des évangiles. Mais est-ce qu'il y a distorsion dans ce processus? Ça mérite quand même d'y répondre à cette question. L'exégèse rationaliste, avec ses présupposés idéologiques et sa prétention scientifique, n'hésite pas à l'affirmer. Quand elle dit, par exemple, que le Christ, la personne du Christ, serait une forgerie des communautés chrétiennes, naissante. De quelle manière elle affirme ça? Elle dit qu'il y a une distinction à faire entre le Christ de l'histoire et le Christ de la foi. Vous savez, on entend moins aujourd'hui, mais il y a encore quelques années, hein, c'est pas loin de nous, on entendait souvent cette distinction dans l'exégèse. On parlait du Christ de la foi et du Christ de l'histoire. Le Christ de l'histoire, bon, on a très peu d'éléments sur sa vie, donc on le réduisait en quelque sorte à un personnage qui était au mieux un maître de morale et de sagesse. Et le Christ de la foi, c'est une construction, donc a posteriori, c'est une construction, dit cette critique, une construction des communautés chrétiennes pour leurs besoins. Pour leurs besoins. C'est-à-dire, c'est une construction à plusieurs facettes, parce que ce Christ de la foi a surgi dans les communautés chrétiennes. Alors évidemment, quand on fait cette distinction entre le Christ de l'histoire et le Christ de la foi, il n'y a qu'un pas pour nier la résurrection, pour transformer la résurrection en un mythe, ce qu'ont fait des exégètes rationalistes, qui ont nié la résurrection, qui ont dit que c'était une légende, et non un fait objectivement advenu, même si ce fait n'est connaissable que dans la foi. Mais la résurrection du Christ est objectivement advenue. En dehors de ce que je peux en penser, elle est objectivement advenue. C'est un fait historique. Et d'ailleurs, nous le lisons à Pâques, nous disons, le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. C'est pas une image, c'est pas un symbole au sens vulgaire, c'est véritablement un fait historique que la résurrection du Christ, qui est nié par cette exégèse qui scinde le Christ en un personnage historique dont on sait peu de choses et une construction des communautés chrétiennes. Donc évidemment, cela nous le rejetons avec force, mais nous le rejetons de manière argumentée, c'est-à-dire que le Nouveau Testament affirme lui-même que les apôtres qui sont instruits dans la vérité tout entière, à la Pentecôte, qui sont emplis de l'Esprit Saint, ces apôtres ont acquis peu à peu une claire conscience, une claire connaissance de la divinité du Maître, ce qui n'était pas évident, on le voit, hein, quand on suit par exemple tout le parcours de l'évangile de Jean, on voit que le dévoilement de la personne du Christ, eh bien, la réception de ce dévoilement ne va pas de soi comme cela. Hein. Mais avec la résurrection, par exemple, il y a un verset dans l'évangile de Jean au chapitre 20, c'est dans le récit, dans le second récit de l'apparition du Christ aux disciples, le premier, le Seigneur apparaît, mais Thomas n'est pas là. Et dans le second, Thomas est là. Et donc les apôtres, qui étaient témoins de la première apparition au Cénacle, racontent qui ils ont vu. Et Thomas doute. Hein, vous connaissez tous le récit, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais quand le Christ s'approche de lui et lui demande de regarder ses plaies, Thomas ne les touche pas d'ailleurs, et il s'exclame par contre « Mon Seigneur et mon Dieu !»« Mon Seigneur et mon Dieu !» Donc là, il y a une claire connaissance de la divinité du Seigneur chez les apôtres à ce moment-là. Et c'est ce qui leur permet de conserver fidèlement dans leur mémoire tous les événements dont ils ont été les témoins. C'est à cause de cette connaissance qu'ils ont de la personne du Christ, la personne divino-humaine du Christ, c'est à cause de cette foi qu'ils ont, cette foi éclairée, puisque ils ont accédé par la réception du Saint-Esprit, ils ont accédé à la vérité tout entière, c'est-à-dire que tout ce qui était obscur en eux s'est éclairé, toutes les paroles que le Christ avait prononcées en référence, avait prononcées en ce qui le concerne lui, en se référant à la loi, les prophètes et les psaumes, se sont éclairés, ils ont compris, ils ont compris. Ils ont accédé à la plénitude de la vérité. Et pour cet ensemble de raisons, le message est transmis fidèlement. Le fait que le temps s'écoule entre l'enlèvement au ciel du Christ et l'annonce de ce message par les apôtres, donc les années qui ont suivi, ne sont pas des signes de perte, d'oubli, d'effacement de la mémoire de ces événements. Mais au contraire, à cause de la foi, ces événements s'affermissent en eux, s'incrustent complètement en eux. Ils sont complètement habités par ces événements dont ils ont été les témoins. Ces événements les habitent d'autant plus qu'ils en comprennent complètement la signification. Et de ce fait, le temps n'efface pas, ne les efface pas de leur mémoire. Donc il n'y a pas de distorsion entre la prédication du Christ, l'enseignement du Seigneur, les signes, tout ce qu'il a accompli dans sa vie jusqu'à sa mort et sa résurrection, et le témoignage des apôtres. Ils ont transmis fidèlement tout cela, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Rien ne s'est perdu, pour les raisons que je viens d'expliquer. Donc nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est qu'il n'y a pas d'innovation dans le témoignage des apôtres. Il y a simplement, le témoignage des apôtres n'est pas forcément identique, stricto sensu, d'un apôtre à l'autre. Pourquoi ? Parce que les apôtres s'adressent à des publics différents. Les apôtres édifient et enseignent des églises dans des contrées différentes et donc font appel à un matériau très important parce que, évidemment, les évangiles tels que nous les connaissons ne renferment pas toutes les paroles du Christ, ne renferment pas toute la geste du Christ, n'énoncent pas tous les signes que le Christ a accomplis. Hein, nous le savons hein, par la finale de l'évangile de Jean. Donc il y a un choix dans ces matériaux, en fonction des nécessités du témoignage. Mais à chaque fois, donc, les apôtres vont à l'essentiel et se servent de matériaux en fonction du contexte dans lequel ils se trouvent, mais il n'empêche qu'il n'y a pas pour autant de distorsion entre l'enseignement du Seigneur et le témoignage des apôtres. Il y a une fidélité totale entre les deux. Il n'y a pas de novation. Et d'ailleurs, en vertu, quand on étudie l'histoire de l'Église ancienne, on voit bien que la règle de l'unanimité fonctionne. C'est-à-dire que s'il y a un témoignage qui est porté et qui n'est pas unanimement reçu par l'ensemble des églises, eh bien, ce témoignage est rejeté. Donc pensez bien que les apôtres qui sont aux quatre coins de la terre habitée, qui annoncent le message, le kérigme évangélique, et si l'un d'entre eux avait été novateur, c'est-à-dire avait annoncé autre chose que ce que le Christ a fait, a vécu, a prêché, a enseigné, eh bien, l'Église de Jérusalem, notamment la première Église hein, qui est à Jérusalem, celle dont le premier évêque est Jacques, le frère du Seigneur, eh bien, cette Église n'aurait pas reçu ce témoignage novateur. De la même manière que quand Paul va à Jérusalem, rencontre les apôtres, eh bien, il parle entre eux, et ce que Paul enseigne, les apôtres le reçoivent comme la vérité du message du Christ. Hein? Si Paul avait enseigné autre chose, les autres apôtres auraient dit non, le Seigneur n'a pas enseigné ça. Nous ne reconnaissons pas cet enseignement. Donc, vous voyez, il y a cette règle de l'unanimité, là, qui aussi fonctionne, et qui fait que dans la conciliarité des églises entre elles, tout témoignage qui enseigne autre chose que ce que les apôtres enseignent, et ce que les apôtres enseignent, c'est ce que le Christ a enseigné, tout témoignage autre est rejeté comme novateur. On le voit de manière constante dans l'histoire de l'Église ancienne et même au-delà. Enfin, je terminerai pour dire que, donc ça c'était la deuxième phase, et la troisième phase, et je le verrai dans la leçon qui suivra, plus en détail, quand on verra la chronologie, la datation, et comment très concrètement tous ces textes ont été reçus, qu'il s'agisse des évangiles ou des épîtres que les apôtres écrivent aux églises qu'ils ont fondées, en particulier au premier d'entre eux, c'est-à-dire Saint Paul avec ses 13 épîtres. Il y en a eu d'autres, mais on n'en a conservé que 13. Il y a la rédaction finale des évangiles. Donc, l'évangile, c'est d'abord une tradition orale, mais peu à peu, il a fallu le mettre par écrit. En tout cas, une partie de cette tradition, il y a un versant de cette tradition qui est un versant écrit pour protéger, en quelque sorte, garder intact le témoignage des apôtres, surtout après la disparition physique des apôtres. L'évangile est écrit, les évangiles sont écrits à partir de cette tradition. Il y a un discernement des sources et un grand souci d'exactitude. Parce qu'enfin, quand la critique passe très légèrement là-dessus, sa prétention scientifique est mise vraiment à mal. Quand on étudie précisément la formation des évangiles à partir des documents, parce que les sources documentaires sont abondantes, on voit qu'il y a sous la guidance du Saint-Esprit, il y a un grand discernement de l'Église, une grande exactitude dans cette élaboration et un discernement très, très prudent, hein, où on met vraiment en œuvre la règle de l'unanimité, la règle de l'apostolicité, la règle de l'ancienneté dans la lecture liturgique. Tout ça, ce n'est pas des règles qui ont été appliquées à la légère, mais avec une grande exigence et beaucoup de discernement. Alors, je le disais, dans la rédaction définitive, c'est ce qui fait que, d'ailleurs c'est la preuve de la vérité des évangiles, parce que si on avait voulu construire quelque chose a posteriori, on n'aurait pas fait quatre évangiles, mais on aurait eu qu'un évangile. On n'aurait pas eu, par exemple, dans les évangiles, le récit de la lâcheté des apôtres à Gethsémani. Si c'était une construction d'hommes, si ça procédait que des hommes, on peut être sûr que ce genre de récit aurait été rejeté. Alors, il y a eu, dans l'histoire de l'Église, ce qu'on a appelé le diathésaron de Tatien, qui a fait florès d'ailleurs dans les églises du monde syriaque, l'évangile en un seul, vous savez. Donc, Tatien a pris à partir de la trame commune des évangiles, il a pris dans les quatre récits et il les a fondus en un seul récit. Mais ça, c'est pas du tout unanime dans les églises. C'est pas une œuvre hérétique, hein, le diathésaron, bien sûr. Mais ça n'a pas du tout été reçu de manière unanime. L'Église a gardé ces quatre témoignages du mystère du Christ, parce que le mystère du Christ est si grand qu'il est abordé par ces quatre facettes, celles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Et dans ces quatre évangiles, j'y reviendrai, on se sert de matériaux à la fois communs mais aussi différents. Il y a des récits qui figurent dans certains évangiles, même dans les synoptiques. Donc, sous un seul regard, il y a chez Luc et Matthieu des récits qui ne sont pas dans Marc, ou inversement. Et à plus forte raison, dans le dernier des évangiles, dans celui de Jean. Donc, les apôtres et les évangélistes se servent de matériaux différents, parce qu'il y a aussi un contexte de ces évangiles. Mais ça nous montre aussi que le mystère du Christ ne pouvait pas être abordé d'une seule manière. Il y a plusieurs portes d'entrée. Il y a un unique évangile, celui du Seigneur Jésus-Christ, mais il y a quatre portes d'entrée dans le mystère du Christ. Et ça, c'est une preuve irréfutable de la vérité de l'évangile. Si l'évangile avait été une construction tardive, de gens qui avaient fabriqué, en quelque sorte, la personne du Christ, ça aurait été tout autre chose. Le récit n'aurait pas du tout eu cette allure, et les apôtres ne se seraient pas présentés, notamment Pierre, ne se serait pas présenté sous son vrai jour. Donc il y a un souci d'authenticité dans les récits évangéliques, qui saute aux yeux, qui, pour tout homme de bonne volonté, se montre à la lecture. Rien n'est caché dans ces récits, et c'est une preuve de vérité. C'est une preuve de vérité. Voilà, donc, l'important, là, c'est aussi de souligner, nous le verrons dans la prochaine leçon, que les évangélistes vont utiliser un grand nombre de matériaux transmis par la tradition, qu'ils vont aller à l'essentiel et qu'ils ne vont pas tous utiliser, toujours et partout, les mêmes matériaux. Et Saint Jean Chrysostome, d'ailleurs, parce que ça a posé question, Saint Jean Chrysostome nous dit que c'est dans c'est une de ses homélies où il dit « Il n'est pas contraire à la vérité d'un texte que les évangélistes rapportent des paroles et des actes de Jésus de façon diverse. » Parce que ils conservent tous leur signification, ces paroles et ces actes du Maître, mais de manière diverse. Et c'est pas du tout contraire, nous dit le Chrysostome, à la vérité d'un texte. Voilà, j'en termine là pour aujourd'hui. Donc je vous remercie de votre attention, j'espère avoir été assez clair. Et la prochaine leçon donc sera en fichier audio uniquement, et elle portera sur la chronique des différents textes du Nouveau Testament et de leur contenu.